dans ce nouvel épisode de MPG, My Professional Guest. My Professional Guest est une série de podcasts créés par Morgan Phillips, groupe international de conseils en recrutement et de conseils en gestion des talents. Nous avons le privilège d'accueillir régulièrement des invités inspirés et inspirants, tous experts dans leur domaine. À travers des échanges riches et instructifs, nous découvrirons ensemble les coulisses de différents secteurs d'activité et les défis auxquels sont confrontés les professionnels qui y évoluent. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par nos invités pour une plongée passionnante dans l'univers de leur métier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Blancard. Amélie, bonjour.
Bonjour Marion.
Amélie, vous êtes normalienne, agrégée de lettres, ancienne auditrice de l'IHEDN et vous avez près de 20 ans d'expérience dans le conseil en stratégie de communication auprès d'entreprises de toute taille et de tout secteur. Vous débutez votre carrière en tant que plume pour Carlos Ghosn et Carlos Tavares, mais vous êtes aujourd'hui à la tête de Bureau One to One, une agence dite de conviction qui accompagne les dirigeants dans la mise en place de leur stratégie de communication. L'écriture, les mots, la parole ont pour vous une importance majeure. Ils font partie de votre vie. Vous en avez d'ailleurs fait votre métier. Alors qui de mieux placé que vous, Amélie, pour venir aborder aujourd'hui avec nous un sujet passionnant, mais loin d'être évident, l'art de parler de soi avec l'autre. Que ce soit pour trouver un emploi, développer son réseau professionnel ou personnel, ou simplement pour interagir avec autrui, cela paraît essentiel de savoir se présenter efficacement. La question « parlez-moi de vous » est d'ailleurs une question qui paralyse et qui pourtant est très posée en entretien d'embauche. Amélie, comment selon vous appréhender cette question ?
C'est en effet une question qui n'est pas simple, alors qu'elle devrait l'être. Parce que qui de mieux placé que chacun pour parler de soi ? A priori, c'est facile. On connaît tous son nom, on connaît tous sa fonction, et pourtant, ça n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on a du mal à choisir l'angle. Le sujet est tellement vaste. Premier conseil, déjà, justement, se dire, il faut trouver un angle, il faut savoir ce qui va intéresser l'autre. On ne se présentera pas nécessairement toujours de la même manière, même si parfois, on aura aussi réfléchi avant à la formule qu'on va employer. Prenons le cas d'Al Gore qui, à chaque fois qu'il faisait une conférence sur le climat, disait « Bonjour, je m'appelle Al Gore et je suis l'ex-futur président de la République des États-Unis ». Phrase géniale qui avait le mérite de le présenter et de faire rire l'Assemblée. Donc en fait, il commençait comme ça et c'était une façon de, finalement, de poser les choses très rapidement. Il s'agit de trouver un angle, mais il s'agit aussi de donner l'information clé très vite. Parce qu'on n'a pas le temps de se perdre et il ne faut pas rater son entrée dans la vie. Comme disait Sacha Guitry, je n'ai pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc parler de soi avec efficacité, c'est déjà annoncer la couleur assez rapidement, même si je vais adapter ce propos en fonction de la personne à qui je parle. Vous avez aussi donné un élément de la réponse, puisque ce n'est pas simple, il faut se préparer, d'autant que c'est une question très prévisible. Il y a toujours un moment où on vous demande de parler de vous. Que ce soit un entretien d'embauche, mais aussi un dîner, une première rencontre, les gens vous demandent rarement « qu'est-ce que vous pensez de la politique des États-Unis ? » Ils vous demandent d'abord « mais comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites ?» ou « qu'est-ce que vous aimez ?» Et donc, il faut s'y préparer. Autre conseil peut-être à vous donner, c'est ne pas suivre un ordre chronologique. Il ne s'agit pas de tomber dans le risque du CV où je reprends ma vie, mon œuvre en expliquant que je suis née à Tourcoing il y a 47 ans. Ça n'intéresse que nous et ça n'intéresse pas l'autre. Donc surtout commencer par le présent et évoquer le futur pour agrémenter ce présent, évoquer le passé ensuite pour agrémenter ce présent et parfois même commencer par le futur. Par exemple, je pourrais vous dire, si je cherche à rentrer chez Morgan Phillips, « Bonjour Marion, je suis ravie de vous rencontrer. Je rêve de travailler avec vous. » C'est peut-être ça mon premier élément de présentation. C'est « j'ai envie de travailler avec vous ». Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien préparer son entrée. Il faut être direct. Il ne faut pas bafouiller, ce qui n'est pas simple. Et il faut savoir aussi s'arrêter. Ne pas traîner en longueur quand on parle de soi. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser de la place à l'autre, à celui qui doit vous connaître pour créer une interaction.
Hyper intéressant. Et selon vous, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients de parler de soi ?
Oui, bien sûr. Alors, les avantages, c'est qu'un discours ne porte que s'il est incarné. Donc, De toute façon, quel que soit le sujet, que l'on se décrive ou que l'on parle d'un projet qui nous est cher ou de son entreprise, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on le perçoit. Donc, comme disait Marshall McLuhan, qui était un génie de la communication, le médium, c'est le message. C'est-à-dire que celui qui porte le message rend le message intéressant. Donc, c'est vous qui, lorsque vous l'évoquez, devez dire « je », devez évoquer votre regard. Donc, oui, il y a un avantage, c'est que c'est ce qui fait qu'on va s'intéresser aux propos, déjà. Ensuite, ça permet aussi d'être authentique. Ça permet à l'autre de vous connaître. Donc, ça, c'est un vrai, véritable avantage. Dans les inconvénients, il y a le risque d'être trop narcissique, on pourrait appeler ça le piège de Narcisse. Il y a le risque aussi, finalement, de goûter à ce point le plaisir de parler de soi qu'on n'arrive plus à s'arrêter, puisque la matière est longue, on l'a vu, on connaît bien son sujet, généralement. Et au fond, il faut trouver ce savant équilibre entre parler de soi sans trop parler et sans oublier de laisser de la place à l'autre. C'est ça le défi.
Vous avez cité le défi de Narcisse. En effet, le risque en parlant de soi, en tout cas c'est mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est de paraître arrogant. Oui. Comment on peut se présenter efficacement finalement sans se survendre, sans paraître comme la personne la plus narcissique de cette planète?
Oui. Alors, il faut à la fois être assumé qui l'on est. On ne va pas commencer à dire du mal de soi parce que si vous dites du mal de vous, évidemment, on vous croira. Donc, comme disait une de mes amies, ne dites pas du mal de vous, les autres s'en chargeront. Et pourtant, ce n'est pas une pessimiste, mais une optimiste de la vie. Mais vous devez défendre votre propre chapelle, c'est évident, et dire du bien de vous. C'est aussi une grande leçon de com', dites du bien de vous, ça se répand et on ne sait plus d'où ça vient. Cela étant, se survendre, c'est toujours un danger. Donc, comment éviter ce risque? D'abord, parler de ses réussites n'empêche pas de parler aussi de ses échecs ou de sa vulnérabilité. Et en parler avec recul, ça fait de vous quelqu'un d'intéressant et de fort, de puissant, que ce soit dans un entretien d'embauche ou dans une conversation professionnelle ou personnelle. Donc, je crois qu'il faut trouver cet équilibre qui consiste à parler de ses réussites et de ses échecs. Il ne faut pas non plus minimiser ses réussites parce que vous passez alors pour ce qu'on peut appeler, comme le dirait une de mes collaboratrices Axel, un faux humble. C'est quoi un faux humble? C'est quelqu'un qui, comme diraient les Anglais, is fishing for compliment. C'est-à-dire que là aussi, je ne dis pas du mal de moi, mais je dis tellement à reculons que j'ai fait Normal Sup ou bien l'ENA ou bien que j'ai eu un début difficile. Je le dis en hésitant, ce qui fait que finalement, ça ne passe plus pour quelque chose d'intéressant. Je crois que dans tous les cas, il faut assumer qui l'on est, assumer ses forces, assumer ses faiblesses et aussi, là encore, savoir s'arrêter pour ne pas occuper le crachoir trop longtemps puisque le but, c'est toujours le même, c'est le dialogue, c'est l'interaction. Donc, ça évite l'arrogance.
Beaucoup de professionnels sont confrontés dans leur carrière à ce qu'on appelle un pitch. Qu'est-ce que, selon vous, un bon pitch? Je pense à nos consultants qui nous écoutent, je l'espère, doivent pitcher devant des clients, des prospects pour présenter Morgan Phillips. Ça passe aussi par nos clients eux-mêmes quand ils doivent présenter leur entreprise. Quelles sont les clés?
Il y a plusieurs clés. Déjà, un pitch, par nature, c'est bref. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il faut toujours revenir à l'origine d'un mot. Pitcher, en anglais, c'est l'idée d'une voix haute, high pitch. C'est aussi l'idée de lancer quelque chose, to pitch en anglais, c'est lancer quelque chose. Donc, c'est cette idée que je vais vous parler d'un sujet très brièvement pour que vous attrapiez le sujet comme un ballon et qu'on puisse toutes les deux jouer ensuite au ping-pong ou au tennis. Donc, par nature, c'est bref. Et par nature, c'est un cadeau, un pitch. Un cadeau ne doit être ni trop petit ni trop gros. Donc, il est suffisamment fort et lisible pour qu'ensuite vous ayez envie de l'ouvrir. Donc un pitch, ça doit donner envie, c'est un amuse-bouche, et c'est aussi quelque chose d'incarné. Un pitch, ça ne se redonne pas, un peu comme un cadeau d'ailleurs, c'est personnel aussi. Si vous parlez tous de la même manière de Morgan Phillips, je pense que ça semblera être un discours pré-mâché, récité, désincarné. Donc il faut trouver le moyen de nous donner votre vision de Morgan Phillips, qui est une vision commune et juste, mais qui est en même temps dite avec vos mots et de façon personnelle, votre expérience. Ça peut d'ailleurs être dit de la manière suivante. Quand je suis rentrée chez Morgan Phillips, je pensais que c'était ça. 5 ans plus tard, je peux vous dire que c'est ça. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est encore une fois quelque chose de très incarné. Ensuite, je crois qu'un pitch doit faire rêver. Il doit susciter des questions, être suffisamment clair pour être efficace, mais aussi laisser du grain à moudre pour que j'ai envie de vous poser une question ensuite et vous dire « mais qu'est-ce que vous entendez par ?» Tout à l'heure, par exemple, vous avez dit « c'est une agence de conviction ». On entend peu ce terme d'agence de conviction. Ça peut susciter une question, mais ça veut dire quoi une agence de conviction ? Donc, c'est le début d'un pitch pour décrire mon entreprise. Même si le mot est bizarre, même si le mot peut être contestable, je l'assume parce qu'il fait naître la question. Donc, c'est ça aussi, c'est faire naître la question et l'envie de déclencher une interaction.
Ça me permet, merci, je récupère la balle et je vous la renvoie, mais ça me permet de faire une jolie transition. Personnellement, je ne trouve pas que le mot conviction soit bizarre, je le trouve plutôt surprenant. Comment être surprenant alors quand j'interagis avec autrui? Comment faire en sorte que les gens se souviennent de moi?
Déjà, c'est un peu comme le cheval blanc d'Henri IV, en ménageant la surprise, je dirais. La réponse est dans votre question. C'est quoi ménager la surprise? C'est par exemple parler de vous sous un jour inattendu. Je vous donne un exemple. Ça peut être livrer une facette de vous que personne ne connaît. Par exemple, je dis souvent que je dirige une agence de communication ou de conviction. Mais parfois, il m'arrive de commencer une masterclass en disant « Je suis colonel de réserve de l'armée de l'air et c'est ce qui m'aide à comprendre ce qu'est le management aujourd'hui, en plus de mon agence de com. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'un petit bout de femme comme moi, blonde en costume, soit colonel de réserve de l'armée de l'air. Il se trouve que ça n'est pas usurpé et que c'est un titre dont je suis fière. Donc, je ne le dis pas ni par prétention, ni de façon « out of the blue », comme diraient les Anglais. Il ne s'agit pas d'être décalé, mais il s'agit de se dire « dans tout ce que nous sommes, il y a des facettes qui vont être plus ou moins intéressantes selon les sujets ». Donc, c'est déjà ça, ménager la surprise. C'est finalement choisir le bout de la lorgnette qui va vous permettre de ne pas tomber dans la caricature de vous-même. Si on se présente toujours de la même façon, ça ne va pas. Ensuite, je crois que ça peut être intéressant pour créer la surprise tout en ménageant de l'interaction, c'est de faire résonner la parole de l'autre. Souvent, avant un entretien, il y a une première conversation informelle autour d'un café ou bien j'aurais entendu votre podcast et je me souviens d'une phrase que vous avez dite. Donc, c'est ça aussi ménager la surprise. C'est rappeler un propos de l'autre que l'autre pensait n'être pas si important ou l'autre se dit « mais c'est formidable, comment ?» il ou elle s'en souvient. Et en fait, en faisant ça, je crée une espèce de chaîne de paroles en ravivant un de vos propos et ça crée une belle surprise. Après, la surprise, c'est aussi parfois simplement d'écouter. Les gens ne s'écoutent plus. Donc, ménager une surprise, c'est prendre le temps de ne pas parler trop vite. C'est parfois commencer lentement, voire très lentement. Écoutez bien la question pour donner la meilleure des réponses. Donc, ça peut être très simple, une surprise.
On l'a dit en introduction et vous l'avez vous-même évoqué également, parler de soi, se vendre, n'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cet exercice?
Oui, déjà, se préparer. Ça ne s'improvise pas. On ne naît pas super vendeur et certainement pas super vendeur de soi. Donc, préparez-vous. Interrogez aussi les gens autour de vous. Pourquoi pas un collaborateur ou une collaboratrice en disant... C'est quoi ma qualité première? Qu'est-ce qui, pour vous, fait ma différence? Et ça, on oublie parfois de le faire, mais on peut le faire dans les deux sens, ce qui facilite aussi les choses, en disant « mais moi aussi, j'aimerais bien le faire pour toi ». Et au fond, on ne le fait pas assez, et le regard de l'autre, la parole de l'autre, va nous donner des ailes pour aussi oser le formuler. Puisque si c'est vous, Marion, qui me le dites, bah, je me dis « ça doit être vrai, puisque c'est Marion et que je crois en elle ». Donc, n'ayez pas peur d'interroger l'autre sur ce qui fait une de vos qualités. Ne demandez pas toutes vos qualités, ce serait embarrassant et trop long et vous ne le croiriez pas, ou vous ne la croiriez pas. Mais une, on a tous une qualité, au moins.
Donc, j'espère.
Oui, mais c'est sûr. Donc ça, ça peut aider. Et puis c'est mieux parfois avec un collaborateur qu'avec ses parents ou son entourage parce qu'on a peur que ce soit subjectif. Or là, ça risque de l'être moins. Je crois que ça peut être un premier élément de réponse. se préparer, s'entraîner aussi dans des cadres qui ne sont pas professionnels. Je dis très souvent à mes clients, entraînez-vous partout, tout le temps, au café, parler avec un chauffeur de taxi, c'est très efficace, ça permet de libérer la parole, de vous présenter. La plupart des chauffeurs de taxi disent « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» On peut avoir des vraies conversations avec chauffeur de taxi. Moi, j'adore, ça me permet de prendre le pouls. Jacques Chirac disait d'ailleurs « Pour comprendre l'état de la France, il faut interroger les buralistes et les chauffeurs de taxi. » Et donc, créer des liens aussi lors de vos dîners entre amis où là, vous allez finalement vous entraîner à parler. Parce que plus on parle, plus c'est facile. C'est comme le vélo, c'est comme les maths, c'est comme le latin, c'est comme l'anglais. Plus on ose parler et aussi d'ailleurs trébucher, plus on a de facilité ensuite à le faire. Donc pour ceux qui ont peur, je leur dis, c'est normal, 99% des gens ont le trac. Préparez-vous, entraînez-vous souvent, demandez aux autres quelles sont vos qualités et foncez. Il faut oser.
Qu'est-ce que vous pensez de s'entraîner devant un miroir ?
J'en pense pas toujours du bien, parce que là, vous allez vouloir plutôt rectifier votre mèche gauche et vous dire que votre veste n'est pas tout à fait bien repassée, au lieu de vous concentrer sur l'essentiel. En revanche, prendre votre téléphone, le poser sur le rebord de la fenêtre en évitant qu'il tombe du quatrième étage et vous filmer, ça, c'est génial parce que vous allez regarder vaguement ce tout petit écran au loin et en même temps, vous aurez une captation vidéo qui va vous donner un élément sans que cette image ne soit trop pesante et qu'elle ne vous détourne de votre vrai sujet. Donc, je crois qu'on a les moyens aujourd'hui très facilement de se voir.
En effet. Et la revisionner par la suite.
Exactement. Et c'est un bon miroir. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas aussi le travail en équipe. C'est toujours la même histoire. À deux, on est plus fort. Donc, dire à quelqu'un « Est-ce que je peux te faire mon pitch ?» Et qu'est-ce que t'en penses ? Sois sincère avec moi, c'est un très bon exercice. Moi, je pitch toujours devant mon équipe avant une masterclass parce que je sais que si je leur dis, et ils le font maintenant naturellement, dites-moi ce qui va et dites-moi ce qui ne va pas, en fait, j'aurai un bon regard. Il ne faut pas hésiter.
Et aujourd'hui, comment fait-on pour adapter son discours en fonction de l'interlocuteur que l'on a en face pour être bien évidemment plus efficace et encore plus percutant ?
Alors déjà, il faut essayer de se renseigner. De se dire, mais à qui j'ai affaire ? Est-ce que j'ai affaire à un start-upper ? Est-ce que j'ai affaire à des gens inquiets ? Est-ce que j'ai affaire à mon équipe le lundi matin ou bien le vendredi soir juste avant de partir en week-end ? Il y a un temps aussi de parole à saisir. Quel est le bon moment pour se parler ? Et en fait, en fonction de ça, l'humeur change. Donc, c'est ça aussi, connaître son auditoire et adapter son propos. C'est se dire, qu'est-ce que je peux savoir de l'autre, de ses attentes, de ses inquiétudes, de sa connaissance du sujet. Et si j'ai un public éclectique, il va falloir que je ménage les uns et les autres. Or, la plupart du temps, on n'a pas tous le même niveau d'information. On a tendance aussi à surestimer son public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut évidemment jamais sous-estimer son public. On parle toujours à des gens intelligents, même si leur intelligence est différente de la nôtre. Mais il ne faut pas non plus surestimer son public, c'est-à-dire imaginer que tout ce qu'on va dire va être clair, hyper facile à comprendre. Il faut faire l'effort de clarifier son propos. C'est ça, s'adapter aussi à son auditoire. Donc, on doit s'y adapter avant en se posant les bonnes questions et pendant en se demandant, suis-je assez clair ? Et là, miroir, oh mon miroir, la tête que vous allez faire, va m'indiquer si vous êtes déjà en train de bâiller et de dormir ou si c'est bon, je vous tiens par le regard et par la voix. Donc, je vais adapter mon speech en fonction de vos réactions aussi physiologiques. Et là, me dire, ok, là, il faut que tu raccourcisses parce que tu commences à les ennuyer. Là, il faut que tu racontes, donnes un exemple parce que tu les perds. Là, il faut que tu reformules parce que manifestement, ça ne passe pas. Donc, cette adaptation, elle est permanente. Et enfin, je vais m'adapter, comme je vous le disais tout à l'heure, au bon moment. Est-ce le bon moment pour parler ? On en parlait tout à l'heure avec ma collaboratrice Axel, justement, sur le chemin, qui me disait, tu vois, on ne peut pas demander une augmentation à son boss si à 5 heures du soir, il va chercher ses enfants avant de partir en vacances. Ça ne passera jamais. Et donc, je trouve que c'est des exemples très simples et très pragmatiques. C'est qu'il y a un moment pour parler aussi qui fait que votre message va être audible ou pas. Si vous sentez que quelqu'un ne va pas bien, évidemment, toute la liste des points que vous vouliez aborder, il va falloir la réaménager aussi en cours de route.
Bien sûr.
Et enfin, peut-être qu'il faut aussi adapter son discours après coup, en se disant, là, j'ai pas été bon ou j'ai pas été bonne. Il faut que je renvoie un mail en redonnant les trois objectifs clés. Pourquoi pas ? Il n'est jamais trop tard pour être clair. Si on sent qu'on a raté, ça ne veut pas dire qu'on a raté de façon absolue et définitive. On peut soit réorganiser un meeting en disant « faut que je le présente autrement ». On peut même reconnaître qu'on n'a pas été bon en disant « écoutez, voilà, je voudrais qu'on revienne sur ce sujet parce que la dernière fois, je réalise que c'était si complexe qu'il faut aujourd'hui que je simplifie le propos et que je veux revenir avec vous sur 2-3 points où je n'ai pas été assez claire ou pas assez concrète ». Et c'est une force de dire ça. Aussi bien pour un consultant que pour un chef d'entreprise ou pour un salarié, de dire « je n'ai pas compris » ou « je réalise que je n'ai pas été assez clair ». Je pense que l'état actuel de la société où on se dit davantage les choses, où la sincérité est valorisée, autorise cette parole de vérité. Il faut s'en réjouir. Ça veut dire qu'on peut se tromper, on peut aussi se corriger, on peut aussi reconnaître une faille sans pour autant passer pour un loser. Et c'est très important parce que ça peut être au contraire une grande force professionnelle et personnelle d'oser dire « je réalise que ce que je vous dis n'est pas clair ».
Passionnant. Merci Amélie. Et finalement, on a vu que l'art de parler de soi, l'art de la communication, c'est l'art de séduction.
Oui.
Finalement, il
oui.
faut convaincre. On a tous envie que tout le monde nous retienne de façon positive. Comment faire pour influencer ?
Alors, vous avez dit séduire. Moi, j'aime beaucoup ce mot séduire. Étymologiquement, la séduction, c'est détourner du chemin. Le chemin le plus connu pour un Français et pour les professionnels que nous sommes, c'est la rationalité. C'est-à-dire un propos structuré avec parfois même un peu trop de structure à la façon scolaire, 3 parties, 3 sous-parties ou bien à Sciences Po, 2 parties, 2 sous-parties. L'argumentation, c'est essentiel. Et la cohérence, c'est essentiel. Mais il y a d'autres éléments qui font qu'on va influencer quelqu'un. L'art d'être direct est très important. Donc, je recommande, par exemple, de commencer par la conclusion pour être sûr que je suis écoutée, sachant que plus les minutes s'égrènent, moins vous êtes écoutée. Donc ça, déjà, c'est une façon de capter l'attention. Commencez fort. Au pire, vous allez choquer et pourquoi pas si ça réveille l'auditoire. Ne gardons pas le meilleur pour la fin. Autrement dit, sinon vous n'aurez pas beaucoup d'impact parce que vous en demandez trop à votre auditoire. Donc il ne faut pas monter en puissance, il faut être bon tout de suite, je crois, à l'oral. Ensuite, séduire et influencer, je fais le lien entre vos deux verbes dans cette question, c'est, je crois, ne pas négliger ce qui séduit aussi des enfants, c'est-à-dire les histoires, les exemples concrets. On ne parle pas comme on écrit. Et si, à l'écrit, les concepts peuvent aisément se comprendre, à l'oral, ça passe mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner des cas concrets. Oser aussi faire un détour par l'image. Tacite disait, il n'y a rien de plus puissant qu'une image. Une image vaut 1000 théories. Et une image, ça peut être une analogie, une comparaison très simple qui fait que tout à coup, oui, je me dis, mais bien sûr, c'est éclairant. Donc, c'est ça aussi, influencer. Et enfin, je crois que influencer, c'est avoir une parole rare, c'est ne pas trop en dire, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce qu'aujourd'hui, tout est parole, on parle beaucoup. Je pense parfois qu'on parle trop, même si certains ne parlent pas assez. Donc, il faut oser parler, mais il faut parler à bon escient et être capable aussi d'en dire peu et de dire bien les choses. C'est un peu le « less is more » de Mies van der Rohe, qui était ce grand architecte minimaliste. Le moins et le mieux, parfois, parce qu'en y en disant peu, eh bien, je vais marquer les esprits. Et c'est ça aussi, influencer. C'est en dire peu, mais être capable d'avoir une parole qui est justement d'autant plus écoutée. Pardon, si je devais donner un exemple très, très connu, c'est celui de la reine d'Angleterre, qui, en 70 ans de règne, on l'oublie parfois, n'a parlé que 7 fois au peuple britannique, hormis les traditionnels vœux de Noël. 7 fois, ça fait à peu près un discours tous les 10 ans. C'est rarissime.
C'est fou.
Aucun leader au monde ne parle aussi peu. Et pourtant, du temps de la reine Élisabeth. On a vu combien la monarchie était respectée, combien elle avait une aura. Et donc, c'est peut-être une invitation à se dire, on n'est pas obligé de parler tout le temps. Il vaut mieux parfois faire des discours forts, et des discours brefs d'ailleurs, puisqu'elle a parlé 4 minutes 30 au moment de la crise du Covid. Donc là aussi, très très peu. Macron, je crois, avait parlé presque une heure, ou en tout cas plus de 40 minutes. Elle, 4 minutes 30, et tout le monde se souvient de son discours. Donc, pas la peine d'en dire trop. Dites-en peu, mais dites-le bien et fort. Et parfois, ça a l'efficacité d'une bombe au sens positif du terme.
Magnifique conclusion, terminée sur la reine Élisabeth. Et le mot de la fin, je retiens de garder le meilleur pour le début et non pour la fin. Merci beaucoup, Amélie.
Merci, Marion.
À bientôt.
À bientôt.